Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Avec beaucoup de monde autour de la table. Bonjour.
Bonjour.
Colline, Isabelle, Fanny, Brice. Pour parler de la matériothèque, le Recyclou. Ah, qu'est-ce que c'est, Colline?
Alors, la matériothèque, c'est donc un lieu qu'on a ouvert il y a 2 ans maintenant, où on vend des matériaux de récupération qui viennent du bâtiment, donc qu'on nous apporte ou qu'on va chercher, et des gens d'y et d'ailleurs qui viennent les acheter à prix libre. Et nous sommes une association et on fonctionne avec du bénévolat et aussi un salarié et un service civique.
Donc tout le monde peut venir déposer, c'est connu pour ça, on vient, on amène son matériel un peu comme si on allait dans une aire de tri.
Oui, voilà, c'est ça, chacun peut amener ce qu'il veut aux horaires d'ouverture, parce que sinon ça devient la déchetterie devant chez nous. et on peut amener de l'outillage, on peut amener des fins de chantier s'il nous reste du matériel, on peut amener tout ce qui est en lien avec le bâtiment.
Voilà, et on organise aussi des collectes chez les particuliers ou chez les professionnels pour récupérer du matériel aussi. On a des partenariats avec des entreprises, plus aussi on peut aller chez les particuliers récupérer certains types de matériaux. On a un camion qui a été financé par la fondation BTP+, un gros master, et on est aussi présent un après-midi par semaine à l'entrée de la déchetterie, pour regarder avec les gens dans leur véhicule.
Les déchetteries de la communauté de communes qui d'ailleurs sont en train de mettre en place aussi des bennes spéciales, ou enfin des points de collecte pour que les gens posent en bon état pour que ça puisse être récupéré par vous en fait.
Oui, il y a deux zones de réemploi qui vont être ouvertes. Le 15 octobre à Luc. Donc là on a un local qui va être dédié à la matériothèque et la ressourcerie aussi Air Trésor, avec qui on travaille en collaboration. Et où les gens pourront déposer directement en déchetterie. Et nous, on viendra collecter. Et la prochaine, c'est l'ouverture le 23 à Minglon. Donc là, on a une benne, pareil, où les gens pourront déposer directement pour nous.
J'ai envie de donner une petite liste non exhaustive du style de matériaux qu'on peut apporter ou qu'on peut trouver à la matériothèque, parce qu'on me le demande souvent. Donc, vous m'aidez. Donc, on peut, par exemple, trouver des lavabos, des baignoires, des tuyaux d'arrosage...
La robinetterie,
de la colle, de la peinture.
Tout ce qui est maçonnerie, parpaing, carrelage, briques, ciment, pôle plâtre.
Luminaire,
isolant,
huisserie, porte-fenêtre, volet,
pièces de vélo.
Électricité, couverture, tout ce qui est de toiture, couverture aussi.
Plomberie. Matériaux de jardinage, outils.
Ouais,
voilà, d'où le nom matériothèque. En fait, c'est un espèce de bricolage recyclé.
Ouais. Oui, on nous parle souvent aussi de caverne d'Ali Baba quand on vient visiter la matériothèque, parce que justement, on trouve un peu de tout.
Oui, parce que justement, tu as parlé de trésor tout à l'heure. Donc, la vraie différence entre vous deux, c'est que justement, eux vont être plutôt sur du ménager.
Oui.
Et vous, sur du matériau, quoi, des outils.
C'est ça. C'est là où on est vraiment complémentaires avec Air Trésor. On travaille ensemble et on peaufine aussi ce que chacun gère. Mais eux sont vraiment plus sur les objets du quotidien. Vêtements, meubles, vaisselle, etc. Et nous, on est plus sur tout ce qui concerne le bricolage, les matériaux, les outils et tout.
Donc c'est énorme, en fait, c'est des trucs, c'est pas du tout les mêmes volumes que de s'occuper d'habits. Et... enfin, comment c'est géré sur place? Voilà. Bah, Fanny, t'avais envie de parler.
Non, juste pour avoir une idée. Après, je sais pas si ça donne une idée aux gens, mais donc la matériothèque, elle a ouvert ses portes en octobre 2017. Donc on a l'année 2018 complète comme expérimentation. On avait détourné 12 tonnes...
15 tonnes.
15 tonnes de déchets. Ce qu'il faut expliquer, c'est que l'ensemble de ce qui est vendu, donc à prix libre et conscient, est pesé. Pourquoi c'est pesé? C'est parce qu'en fait, on est subventionné par la communauté de communes du DIWA depuis le début de l'activité, qui en fait nous finance en théorie au tonnage des tournées en déchetterie. Mmh. Parce que tous ces tonnes de déchets non gérés par la collectivité...
Ça fait une économie pour
la collectivité. Ouais. Et donc, ouais. Du coup, elle est redistribuée à cette association, donc la Matériothèque. Et donc, en 2019, on est déjà à combien de tonnage détourné ?
Là, fin septembre, on était déjà à 27 tonnes.
Voilà. Donc, on a doublé.
On vise les 30 tonnes d'ici fin 2019 détournées.
Alors, et ça pourquoi ? Parce que vous êtes mieux organisé ou parce que les gens viennent plus chercher alors, donc il y a plus
les
de
deux, mon général.
Ouais, les deux, c'est ça, les deux, mon général. Déjà, il y a le fait qu'on est de plus en plus connu, donc il y a de plus en plus de gens qui viennent déposer, mais aussi des gens qui viennent acheter, parce qu'on a un problème de stockage. Si les gens faisaient que déposer, on ne pourrait pas. On a pour le moment un petit local avec deux cours extérieurs, mais quoi qu'il arrive, on est à un stade où on commence à arriver à saturation du local parce qu'on a beaucoup de volume à traiter. Voilà, faut dire 30 tonnes de matériaux dans l'année qui sont revendus. Ça, on ne parle pas non plus des matériaux qu'on va redonner à d'autres associations ou qu'on va ramener dans l'ébène, parce qu'on ne peut pas tout revendre. Il y a des choses qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à vendre, etc. Donc, qui retournent dans l'ébène. Ça, on ne passe pas encore. Mais voilà, il y a 30 tonnes de matériaux qui sont passés et revendus dans la Matériothèque. Donc, c'est assez énorme comme volume.
Et donc, je demandais comment c'était organisé.
Alors là...
On est dans des rayons
Alors, il y a plusieurs choses. On a donc un petit local d'une centaine de mètres carrés à l'intérieur duquel il y a un petit guichet bureau. Et autrement, c'est des rayonnages. On essaye de trier au fur et à mesure avec différentes catégories, électricité, plomberie, quincaillerie, tout ce qui est bois, vélo et tout. Et en plus de ça, on a donc deux cours extérieurs où on va stocker aussi le carrelage, les vélos, tout ce qui est, on récupère aussi des bidons, on a aussi tout ce qui est sanitaire, les portes et fenêtres, etc. qui sont, on essaie de trier au fur et à mesure. On vient d'ouvrir un peu des bacs aussi pour trier le métal, pour qu'ils peuvent servir pour ceux qui font de la soudure, par exemple. Donc, voilà, on essaie vraiment petit à petit de trier. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie. C'est là on a une équipe de bénévoles qui fait un énorme travail parce que c'est beaucoup de temps. À trier à chaque fois tout ce qui arrive et à le ranger pour que les gens qui viennent aussi acheter s'y retrouvent. C'est l'important.
Il faut que ce soit beau, ce qu'on vous ramène
Non, pas forcément. Il faut que ce soit utile, je dirais. C'est la première chose pour que ça intéresse les gens. Mais peut-être juste pour revenir sur le local, on est en train de faire des projets d'aménagement en ce moment pour essayer de mieux réorganiser, mieux que ce soit géré, parce que si on sait où sont les choses, on les trouve plus facilement et du coup on les achète plus facilement et nous-mêmes on les range plus facilement à la bonne place directement et ça évite de la manutention. Donc là on a plusieurs chantiers qui ont lieu à la Matériothèque. Donc on fait appel à des artisans pour certaines choses. Donc par exemple là il y a un abri vélo qui vient d'être posé pour abriter les vélos qui jusqu'à présent prenaient l'eau et rouillaient. Parce que du coup une petite parenthèse, mais on travaille avec le collectif Vélo d'Iwa qui nous a laissé ces vélos. Et donc les gens peuvent venir bricoler un vélo, chercher une pièce de vélo, chercher un cadre de vélo pour se remonter un vélo. Donc ça c'est un peu en dehors de l'activité Matériothèque. En fait on a ces deux activités là quand même. Et donc, il y a cet abri vélo qui vient d'arriver au niveau de l'aménagement. Et il y a un deuxième bâtiment sur lequel on a mis une bâche qui est précaire. On va en remettre une parce que là, il y en a plein de fuites. Donc ça, ce sera par exemple un chantier participatif. Donc on appelle les gens à venir nous aider à poser la bâche, par exemple. Voilà. Et après, on va faire par exemple un auvent dehors pour décharger à l'abri le camion et pour stocker en attente les matériaux avant qu'ils soient remis en boutique. Donc là, c'est un artisan qui va faire le auvent en bois. Et donc à chaque fois, on essaye de prévoir des aménagements qui soient démontables parce qu'un jour, on va changer de bâtiment parce que ça sera trop petit. Et donc on a un projet de bâtiment, mais on en parlera après, je pense. Donc du coup, c'est aussi pour dire aux gens qu'on venir aider, ça peut être faire une permanence, mais ça peut être venir faire un chantier participatif le jour où on a besoin de coups de main. Et voilà.
Ça nous permet de glisser sur l'organisation associative hein, de la Matériothèque. Donc comment ça se passe Combien c'est de personnes On veut tout savoir, le CA, le budget et justement tous ces appels là, à chantier.
Ben donc, en fait, actuellement, on a un salarié. Donc, Brice, il a beaucoup parlé. Et donc, il est salarié de la Matériothèque. Il y a un service civique aussi, Théo. Après, il y a deux prestataires. Fanny et Colline. Et après, il y a aussi une équipe de bénévoles. Donc, en fait, on aimerait bien développer tout ça. C'est-à-dire, ce qui serait génial, c'est qu'on arrive à embaucher un autre salarié, d'autres services civiques, parce que vraiment, il y a tellement de travail et tellement de projets en cours ou en projet, et le projet de développement, surtout, qui a aussi vraiment un énorme projet de changement de lieu. Et puis, du coup, en attendant de pouvoir embaucher ces personnes, et puis même après, parce que le travail, il ne va pas s'arrêter, ce serait bien vraiment d'arriver à renforcer l'équipe de bénévoles. Par exemple, moi, je fais partie du CA, et ce serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui viennent aussi renforcer le CA, parce que, voilà, bah, on contribue aussi chacun à sa façon à développer tout ça, et voilà, quoi.
Si vous posez la question du budget, donc en fait, la Matériothèque, le Recyclo, c'est une association loi 1901, donc créée en 2017. Pendant 3 ans avant la création de cette association, il y avait un collectif de citoyens, d'habitants qui ont longuement réfléchi, qui avaient envie de créer ce lieu et qui se sont donné les moyens pour l'ouverture en 2017. Là, aujourd'hui, comment ça fonctionne? Il y a un autofinancement lié à la vente de matériaux à prix libre. Voilà, l'année dernière, je crois que c'était 8500 euros. Cette année, ça va doubler. Voilà, ça fait que l'autofinancement, il augmente puisqu'il y a forcément plus de tonnage de matériaux détournés, donc de revente. Après, comme je le disais tout à l'heure, il y a un financement de la communauté de communes du Diwa qui nous soutient. Donc aujourd'hui, on est financé à hauteur de 10 000 euros par an, l'année prochaine aussi. On n'est pas encore subventionné au tonnage détourné, mais là, c'est plus une subvention pour l'aide au démarrage. Mais dans 2 ans, normalement, cette subvention, elle va être calée sur le tonnage détourné. C'était environ, je crois, 70 euros la tonne. Après, ça dépend les matériaux détournés, mais en moyenne, c'est 70 euros la tonne. Donc on a ces 2 sources de financement. Et puis là, on a monté un dossier leader, un dossier européen qui est à la fois sur de l'investissement et du fonctionnement. Donc l'investissement, c'est achat d'outils, création de coopératives d'outillage, mise aux normes et aménagement du local actuel. Puis la partie fonctionnement, c'est des prestations, donc comme disait Isabelle, de Colline Pell et de moi-même, Fanny Mazur, sur en gros le développement de l'activité, le développement des partenariats et le travail sur le futur projet. Donc par les Colline, qui est a priori d'ici 2 ans, on devrait déménager donc dans la zone artisanale et industrielle. La communauté de communes a acheté un terrain et souhaite créer un énorme lieu de réemploi, où il y aurait plusieurs associations qui travaillent dans le réemploi, dont Air Trésor, dont la Matériothèque, et puis peut-être d'autres acteurs qu'on ne connaît pas encore ou qui vont se créer prochainement.
Ils veulent vous placer tous au même endroit, c'est-à-dire qu'Air Trésor...
Oui, alors c'est pas ils veulent nous placer au même endroit, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros travail entamé, mais je crois que même ça fait maintenant 4 ans, avec les acteurs du réemploi, notamment le textile, les associations... qui gère le textile, enfin, il y a beaucoup d'acteurs. Et l'idée, c'était de faire des économies, de mutualiser un certain nombre de fonctionnements, et notamment les allers-retours en déchetterie. Et du coup, l'idée d'être au même endroit, c'est aussi pour faciliter la gestion des filières et l'acheminement des matériaux. L'idéal, ça aurait été que ce soit à la déchetterie de Die. On y a réfléchi, il y a eu des études, mais elle va être rénovée. L'espace était trop petit pour contenir. Donc voilà.
Il est trop petit pour la tachette déjà. Ouais.
Ouais. Bah, en fait, le bâtiment que la communauté de communes souhaitait développer, donc ce qu'ils appellent le pôle ressourcerie dont Fanny parle, ne pouvait pas être à la déchetterie parce qu'il n'y avait pas la place. Donc ils ont trouvé un autre lieu. Mais au sein de la déchetterie, quand elle va être faite, il y aura quand même une aire dédiée au réemploi et qui sera même plus grande que ce dont on parlait tout à l'heure pour Luc. Où là, il y aura, dans l'idée, un valoriste, donc un salarié mutualisé avec les différentes structures de réemploi qui, lui, fera le tri pour pouvoir acheminer après, derrière, justement, au sein du pôle ressourcerie. Et c'est vrai que l'idée d'avoir tout le monde au même endroit, c'est très pertinent parce que ça permet aussi aux gens qui viennent déposer, ils déposent tout au même endroit. Et en plus de ça, de pouvoir développer de nouvelles filières, de pouvoir imaginer de nouvelles filières. On a des questionnements, on réfléchit par exemple au polystyrène ou des choses du genre, qui sont des filières assez aberrantes actuellement parce qu'on va charger des camions qu'on va emmener à Valence ou à Paris ou loin, en sachant qu'on met très peu de poids en fait de polystyrène par exemple dans un camion. On met 180 kilos dans un camion ben de polystyrène. Voilà, et c'est emmené à l'autre bout de la France pour être traité, alors qu'on pourrait par exemple imaginer localement avoir une presse pour refaire des dalles pour de l'isolant ou des choses du genre. Il y a des réflexions comme ça. Ça permettrait de développer ce genre de filière plus localement à travers ce bâtiment là.
Et cette relation avec la Comcom, donc on voit pour eux, il y a le sens que ça a, qu'il y ait effectivement des tonnages détournés. Pour vous, c'est une co-construction vraiment, ou on sent que c'est là, il y a une orientation précise politique et que donc vous faites partie des acteurs, voilà, ça peut, que ce soit vous ou d'autres, à la limite, ils s'en moquent. Est-ce que vous avez, participatif
Ouais, pour moi, il y a un vrai travail d'échange. Il y a un vrai travail collectif de réflexion sur les projets, sur comment on construit, par exemple, le futur bâtiment, etc. Avec des contraintes budgétaires que peuvent avoir les comités de communes et tout. Il y a une volonté politique, mais pour moi, qui va plutôt dans le bon sens. Ce qui est assez exceptionnel, d'ailleurs, par rapport à énormément de comités de communes, même du coin, et sans parler au niveau national.
Oui, on parlait en off que tu visites d'autres matériothèques.
Là, j'étais en réunion la semaine dernière avec les autres matériothèques du territoire, qui a Romans et Montméran, qui, elles, sont bloquées. Celle de Romans a plus d'impact, parce qu'ils sont là depuis longtemps, ils ont réussi à positionner des gens en déchetterie, mais ils se battent avec Valence Aglo, et celle de Montméran, on n'en parle même pas. Il y a peu de comités de communes qui se sont appropriés le problème, comme celle du Diois, et qui ont fait des vrais choix politiques d'investir dans l'économie circulaire, donc comment on réfléchit à l'envers la gestion des déchets. Et en plus de ça, ils ont fait ce choix politique, mais en plus, ils nous impliquent, nous, en tant qu'acteurs, dans la réflexion de comment on met en place, comment on se donne les moyens. Et c'est vrai qu'après, ils nous poussent aussi derrière, parce qu'ils ont besoin d'acteurs comme nous pour que ça fonctionne. Donc, mais pour moi, c'est un vrai échange. C'est un vrai échange.
Et puis, sans eux, on ne serait pas là. Enfin, parce que c'est vraiment... ils nous donnent une subvention, ils nous donnent 10 000 euros. Et donc, c'est quand même énorme. Donc, ils ne vont pas nous les donner tout le temps. Hein. C'est une aide au démarrage et à l'implantation de l'activité.
Oui, parce que j'entendais 70 euros la tonne. Après, pour 30 tonnes, ça fait beaucoup moins, quoi.
Voilà. Mais c'est pour ça qu'au début, du coup, on n'est pas calé sur des tonnages. Mm-hmm. À l'avenir, on le sera et ce sera ça la source de revenus. Mais pour l'instant, ils disent, bon, ben, cette activité-là, il faut qu'elle existe. On rend un service sur le territoire. Donc, on vous donne 10 000 euros pour vous aider à démarrer, quoi. Et donc, c'est vrai que si eux, ils n'étaient pas là, l'activité qu'on a aujourd'hui, elle ne serait pas telle qu'elle est, quoi.
Mmh. Et ça, tout de suite ?
Et bien là, ça fait 2 ans qu'on a 10 000 euros. Avant, on avait 5 000 euros au moment où on n'avait pas encore tout à fait le bâtiment, enfin, au début, quoi. Mmh. Et du coup, quand ils ont vu qu'on a lancé l'activité, ils se sont dit, oh, OK, on vous aide un peu plus. Et voilà. Et donc, après, c'est vrai que c'est peut-être intéressant de parler du projet qu'il y a dans le futur avec eux.
De ce bâtiment, justement.
Ouais, de ce nouveau pôle ressourcerie, hein, parce que c'est un peu ça l'idée. C'est de tout rassembler au même endroit, donc aussi pour les gens, ce soit identifiable clairement à cet endroit-là. On peut aller tout chercher au même endroit, c'est aussi plus simple, parce que des fois, on a besoin d'un truc à Air Trésor, un truc chez nous. Là, si on est à côté, du coup, c'est beaucoup plus simple. Nous, on a comme ambition que ce bâtiment, il évoque aussi le réemploi, c'est-à-dire qu'il soit peut-être le plus brut possible et qu'il soit avec des matériaux de récup, si on peut. En tout cas, tous les aménagements intérieurs, on aimerait bien qu'on puisse le faire nous et que ce ne soit pas un bâtiment livré clé en main et que ce soit un bâtiment qui reflète l'idée qu'il y a derrière. Parce qu'après, il y a aussi... on est quand même un petit peu... déçu, on va dire, que ça se fasse sur des terres, sur une extension de la ville, alors qu'il y aurait peut-être pu avoir d'autres lieux. Mais ça ne s'est pas fait, et voilà, donc on se retrouve sur ce lieu-là, mais on se dit, au moins, en construisant ici, on aimerait que le bâtiment ce ne soit pas une grosse bouse dans le paysage, et qu'il évoque donc peut-être des conteneurs de récupération qui pourraient servir de stockage et de structure dans le bâtiment, peut-être... des cloisons qu'on ferait avec tous les livres qu'on jette, peut-être. Enfin, il y a plein de possibles. Et
voilà. Ouais. Puis du coup, on a aussi envie que ce soit un endroit qui soit beau, en fait, qui est aussi une notion d'esthétique et puis d'accueil, que ce soit un lieu qui soit accueillant où quelqu'un a évoqué le Répare Café. Et ce serait bien qu'effectivement, qu'on puisse aussi se poser, qu'il y ait un mini-salon, qu'on puisse boire un coup, s'arrêter, que ce soit aussi un lieu agréable, avec un espace extérieur. On avait parlé même un espace accueillant où les enfants, où il y aurait, voilà, qui puisse être accueillant pour les enfants aussi, avec des arbres, je ne sais pas. Enfin, voilà, on est c'est en pleine gestation actuellement.
Bah, ça, du coup, on l'a un petit peu défini, parce que du coup, dans les partenaires de projet, il y a la boîte à jouer, qui est Emma, qui est quelqu'un qui va faire justement un parc pour enfants en matériaux de récupération. Donc voilà, c'est l'idée de montrer grandeur nature ce qu'on peut faire avec ce qu'on jette. Et après, dans le programme du bâtiment, donc on l'a quand même beaucoup défini. Donc là, on triplerait, voire on quadruplerait nos mètres carrés actuels. Donc, parce que là, on a 100 mètres carrés, plus le hangar à côté où on stocke un peu, mais là, on passerait sur 800 mètres carrés au moins. Bon, après, on est en train un peu de revoir nos surfaces parce qu'il y a le coût du bâtiment et que des fois, on nous dit, voilà, ça risque de coincer. Mais on aurait plus d'extérieur couvert aussi. Et il y aurait, là, ce qu'on souhaite développer comme espace qui n'existe pas pour l'instant, c'est notamment des ateliers avec des bonnes machines, bois et tout ça. Parce que pour l'instant, on est vraiment sur l'activité vente, revente, collecte. Mais à l'avenir, on aimerait que l'activité atelier, apprendre à faire soi-même, réparer et tout ça se développe. Donc, on prévoit de la surface et de l'outillage et tout ça en fonction de ce projet-là. Donc, il y aurait... Et il y aurait aussi des espaces pour une coopérative d'outillage où on puisse venir emprunter des outils pro. Parce que souvent, on n'a pas besoin d'un échafaudage pour une année, mais pour une semaine. Et que du coup, si on peut le trouver et le louer à un tarif associatif, ben voilà.
C'est vraiment l'idée, voilà, de réfléchir. Parce qu'on parle, quand on parle d'économie circulaire, on parle souvent justement de gestion des déchets, de leur donner une deuxième vie. Mais dedans, il y a aussi l'économie de service. C'est qu'on n'a pas besoin, il y a des outils, on n'a pas besoin de les avoir, en fait. On a besoin de pouvoir l'utiliser. Et donc l'idée de la coopérative d'outillage, c'est ça. C'est que plutôt que d'acheter l'outil, on a juste besoin de pouvoir l'utiliser. Donc autant le mutualiser. Et donc la coopérative d'outillage servirait à centraliser ces outils pour pouvoir les mutualiser sur le territoire derrière.
Et pour entrer dans le détail des ateliers, ça veut dire qu'il y aura des professionnels en place pour former des gens à servir de tel ou tel type d'outil. Enfin bon, j'imagine... des responsabilités quand même dans tout ça. On ne peut pas faire un atelier de menuiserie, par exemple. Bon, il y a des trucs qui sont un peu... Ou une presse à polystyrène. Enfin, le monde ne la manie pas comme ça, non ?
De toute façon, il y a toute une réflexion qui se fait sur la coopérative d'outillage et sur les ateliers. C'est en gestation. Et par exemple, sur la coopérative d'outillage, on a déjà commencé à réfléchir aux fiches techniques qu'il y aura à mettre en place et aux mini-formations. On sait que ça, on doit encore travailler dessus. Mais c'est déjà en tête, justement, qu'on a un environnement à créer autour de ça pour garantir la bonne utilisation des outils et tout. Pour les ateliers, dans l'idée, c'est qu'il peut y avoir des ateliers faits par des bénévoles, mais aussi par des artisans professionnels, justement, qui peuvent amener vraiment un point de compétence là-dessus. Et après, on a des ateliers, on a déjà, par exemple, lancé l'atelier réparation, là, qui est tenu par un bénévole, où les gens peuvent venir avec des objets pour regarder, apprendre à auto-réparer et se faire accompagner. Il y a moins besoin d'ultra-compétences.
Du coup, atelier réparation qui a lieu deux fois par mois.
C'est ça, le deuxième et quatrième samedi du mois, de 10h à midi à la matériothèque. Les gens peuvent venir avec du petit tifi ou outil, etc. On ne va pas venir avec une machine à laver, c'est très encombrant et ce n'est pas facile pour un moment. Et ça, c'est on travaille en lien avec l'espace social, avec la corderie, avec Art Trésor, pour essayer de mutualiser les compétences et les réseaux pour avoir un maximum de... mutualiser, justement, c'est pareil, on parle souvent de mutualiser. Mutualiser aussi les énergies sur cette facilité de pouvoir réparer les choses plutôt que d'aller racheter du neuf et de jeter ce qui ne marche plus.
Ouais. Et moi, je voulais juste donner l'exemple du premier Répare Café donc, qui a eu lieu. La personne est venue avec une machine à coudre qui ne marchait pas depuis des années. Et elle a été absolument épatée que, je crois,
en une heure
à peu près. Hein, le bénévole qui était là, qui n'avait à peu près jamais vu une machine à coudre de sa vie, a réussi à la démonter entièrement. Et elle n'en est pas revenue qu'en fait, il réussisse à la remonter et à la faire marcher. Comme si de rien n'était comme neuf. Donc voilà, c'est franchement, c'est épatant, quoi.
Donc, vous avez des bénévoles qui sont bien chauds, alors.
On a des bénévoles bien chauds.
J'oserais même pas ouvrir une machine.
C'est le but des ateliers réparation, c'est de montrer aux gens que c'est faisable et que même par eux, la plupart du temps, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Il y a des choses sur des points un peu électricité, etc., qui peuvent demander un peu plus de compétences, mais il y a plein de choses où en fait on peut ouvrir et regarder déjà. Une fois qu'on sait qu'on peut le faire, et surtout si on est accompagné, c'est un cadre rassurant, et bon, on va se rendre compte qu'il y a plein de petites réparations qu'on peut faire nous-mêmes, ou au moins diagnostiquer nous-mêmes. En fait, c'est le but, il est vraiment là dans ces ateliers réparation, c'est de montrer aux gens qu'il y a vraiment plein de choses qu'on peut commencer à faire nous-mêmes avec quelques petits outils. On n'a pas besoin d'outils spécialisés. Et après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ben, on va voir des réparateurs. On a des réparateurs aussi locaux. Mais il y a plein de petites pannes qu'on peut apprendre à faire, à dépanner.
Après, il y a aussi une chose que je voulais dire par rapport aux bénévoles. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les gens qui écoutent s'imaginent qu'il faut forcément être hyper bricoleur pour venir s'investir à la matériothèque. Voilà. Moi, par exemple, je suis la personnification d'une personne non bricoleuse.
On a tous ri en plus, c'est dégueulasse.
Absolument aucune compétence spéciale en bricolage et qui pourtant trouve sa place d'une autre façon. Voilà. Donc,
Par exemple.
Par exemple, déjà, je crois que pour tenir une permanence, il n'y a pas forcément besoin. C'est sûr que les gens qui sont bricoleurs, c'est un plus pour aider les personnes qui cherchent des trucs précis. Voilà, c'est les gens bricoleurs, ils vont plus réussir à leur répondre. Mais quelqu'un comme moi, il y a quand même sa place parce qu'il y a tellement de choses à faire que je peux très bien tenir une permanence. Et puis, je peux aussi m'investir dans plein d'autres choses, comme aider par rapport aux réunions, au CA. Y a multitâches, quoi.
D'ailleurs, c'est vrai qu'on évoquait l'organisation tout à l'heure. Il y avait la question du fonctionnement. En fait, nous, on a une réunion du conseil d'administration par mois. Parce qu'on a énormément de choses à voir en ce moment. Et en plus de ça, on est en train de mettre en place des commissions, justement pour décharger un peu les réunions de conseil d'administration qui peuvent être très chargées, parce qu'on peut avoir beaucoup de points à voir. Et donc, voilà, des commissions sur des points, par exemple sur les finances, sur les emplois, sur ce qu'il y a à développer, sur la communication. Et donc, comme dit Isa, il y a vraiment ce côté où il peut avoir des besoins de compétences en bricolage sur certains postes, mais en fait, sur le bénévolat, il y a majoritairement besoin de multi-compétences autres que le bricolage aussi. Il n'y a pas besoin de s'y connaître en bricolage pour être bénévole à la matériothèque.
Et ça repose quand même beaucoup sur une activité bénévole, en fait. S'il n'y a plus de gens motivés, je veux dire, la pérennité de... Est-ce que c'est pérenne, d'ailleurs, de fonctionner jusqu'au bout avec des bénévoles, là, notamment sur tous ces ateliers, etc. Est-ce que ce ne serait pas dommage, par exemple, de... lancer tel type d'atelier qui tout d'un coup ne pourrait plus se tenir parce que les bénévoles ne sont plus en place
Alors, c'est le principe de l'économie sociale et solidaire où il y a une bonne partie de bénévolat. Et de toute façon, pour le moment, en fait, il n'y a pas les financements. Je parle au niveau des déchets, en fait, de la gestion des déchets, parce que ça, c'est un problème plus politique global, etc. C'est que les déchets sont considérés comme gratuits, entre guillemets. Alors, pourtant, ils ont un coût réel, mais ce qui fait que les investissements dans le réemploi sont assez récents et très pauvres, on va dire. Mais pour moi, il y a des vrais modèles économiques à trouver qui vont permettre de développer de l'emploi. Mais en parallèle de ça, il y aura toujours besoin aussi d'énergie bénévole parce que ça reste quelque chose qui est issu justement de l'économie sociale et solidaire.
Oui, et en même temps, l'objectif, c'est quand même d'arriver à employer d'autres personnes, ouais. D'embaucher d'autres personnes. Mais c'est vrai que pour l'instant, financièrement, ça ne suit pas, quoi.
Après, c'est aussi un modèle qui se cherche et qui évolue entre ces deux, entre du salariat et du bénévolat. Et je pense que il y a plein de gens qui, en tant que bénévoles, trouvent leur place et c'est important qu'il reste du bénévolat. Enfin, parce que c'est aussi ce qui fait l'esprit et qui fait que on n'est pas un magasin. On n'est pas un magasin et quand on le vient, on le sent, je pense. Il y a quelque chose de renouveau continuel parce qu'on ne sait pas où on va, on avance. Les choses, elles se font aussi parce que justement, il y a tel bénévole qui est venu à tel moment et qui avait telle idée et qui a proposé telle chose et pof, ça s'est fait parce qu'il y avait telle autre personne qui était là et ça continue comme ça et c'est ça qui est beau, quoi. Enfin, moi, je trouve. Et juste, je voudrais revenir sur les ateliers où, donc justement, il y a des ateliers animés par des bénévoles. Mais l'idée, c'est aussi qu'il y ait des ateliers animés par des professionnels, donc qu'on rémunère. Et notamment sur des techniques bâtiments, pour que les gens qui veulent s'auto-former puissent venir apprendre comment on pose un carrelage, comment on fait un enduit, comment on fait une isolation chaud-chambre, donc des choses un peu plus techniques et pointues, où là, du coup, on paye un artisan. Et l'idéal, ce qu'on voudrait faire, c'est que nos murs, notre aménagement qu'on est en train de faire en ce moment, servent à s'entraîner pour refaire notre cuisine, les gens qui ont envie de venir apprendre à faire du carrelage puissent venir. Et en même temps, qu'ils aient la garantie que c'est vraiment un artisan qui sait bien faire ça, qui leur enseigne, c'est pas nous, bricoleurs, qui mettons tout de travers, qui allons faire le truc. Mais voilà, et après, il y aurait aussi des ateliers.
Donc les murs du nouveau bâtiment ?
Non, là, les murs de pour l'instant où on est, puisque le nouveau bâtiment n'est pas construit et qu'on parle de 2022, mais on ne sait jamais.
Tout à fait.
Donc, il faut déjà être bien là où on est. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire et que déjà l'activité roule.
Ils vont changer régulièrement ces murs, quoi. Un jour, ils pourront être carrelés. Le lendemain, ils vont être enduits à la chaux.
On a de quoi faire à aménager le local, de toute façon. Et puis, dans l'idée, on ne va pas changer toujours le même mur. Mais dans l'idée, il y a déjà de quoi faire à aménager le local actuellement.
Ouais. Puis, je dirais qu'on a la chance qu'il soit vraiment moche, notre bâtiment, et qu'il soit vraiment brut pour pouvoir y faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est vraiment des parpaings non enduits de partout, y compris la façade. Donc, ça nous laisse une marge de liberté, finalement, puisqu'il n'y a pas un truc à respecter. Et on peut le voir comme ça, comme une chance, quoi.
Il est à vous, d'ailleurs, ce bâtiment ?
Non, on le loue, 350 euros par mois, ce qui reste un petit loyer. Et dans le futur bâtiment, donc l'idée, c'est qu'on aura sûrement un loyer et qui sera plus important.
C'est ça. Après, les volumes plus de surface, les surfaces plus grandes, etc., permettront de gérer des volumes plus grands aussi et donc de trouver le modèle économique pour payer un loyer plus cher. Là, on est vraiment quand même au début du développement de l'activité. Mais on sait qu'il y a des modèles économiques qui peuvent en sortir. En discutant avec les autres matériothèques, on est tout à fait conscient de ça. Hein, que pour le moment, on traite des volumes qui représentent 5% de ce qu'on pourrait traiter réellement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les déchets du bâtiment, ça représente 70% des déchets au niveau national. C'est juste énorme. Ce qui est possible de récupérer et de remettre, de redonner une deuxième vie. Donc,
d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de ce qu'on pouvait trouver à la matériothèque. J'ai entendu, il y a des trucs que vous êtes obligé de remettre à la benne. C'est quoi, par exemple ? Qu'est-ce qui aujourd'hui n'est pas vendu et pourquoi, selon vous ?
Un beau lavabo marron, du carrelage.
Un beau lavabo marron. Ouais. D'accord.
Non, il peut avoir certains sanitaires ou les bidets, par exemple. Les bidets, c'est très compliqué de les faire repartir. C'est fini le bidet, c'est ça. On en a récupéré.
Les gens savent pas ce qu'ils loupent.
C'est ça.
Non, mais après, on se disait qu'avec des bidets, on pouvait faire de formidables jardinières pour faire toute l'allée en bidet jardinière, par exemple.
C'est ça. Après, il peut y avoir aussi... Là où on commence à être un peu plus sélectif, c'est par exemple sur les fenêtres. Avant, on prenait un peu toutes les fenêtres. Maintenant, on essaie de plus récupérer des fenêtres en double vitrage que simple vitrage. Mmh. Et en tout cas, du simple vitrage, si on n'a pas les cadres, les montants des fenêtres, c'est très dur à faire repasser. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de volume. Donc voilà, c'est là-dessus où il faut trouver... C'est ça qui est compliqué, c'est toujours trouver l'équilibre entre... On a envie de donner une deuxième vie à tout, mais en même temps, entre ce qu'on peut stocker et ce qui se revend, etc. Donc ça, c'est un travail qui se fait en permanence, en fait, au fur et à mesure, à équilibrer. Puis en fait, il y a aussi des saisonnalités. On va avoir tout ce qui est système d'arrosage, on en parlait tout à l'heure. Là, au printemps, ça repart en deux-deux. Et en hiver, on va restocker, mais ça ne va pas repartir pendant l'hiver. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre pour gérer les flux un peu des matériaux.
Ouais. Pourquoi on n'achète pas son système d'arrosage en hiver ? Il faut faire des soldes, des soldes à prix libre.
Des soldes à prix libre, ça peut être original.
Ouais. Alors, il y a une AG le 23 octobre.
Oui, une assemblée générale extraordinaire.
Extraordinaire.
C'est ça qu'on a lancé, parce qu'on avait fait l'AG au mois d'avril. On a fait le choix de lancer l'assemblée générale extraordinaire parce qu'on a besoin d'énergie en plus, puisque c'est l'occasion aussi de faire un point un peu sur où on en est, avec tous les projets qu'on a qui ne manquent pas. Et c'était le but aussi pour remobiliser l'énergie bénévole, pour faire entrer de nouvelles personnes au CA, parce qu'on... On a plein de questionnements, on a plein de projets en cours, on a besoin d'aller chercher de nouvelles énergies.
Donc évidemment, c'est une AG qui est ouverte très largement à tout le monde.
C'est ça.
Donc, on vous attend.
Il y aura un petit film qui sera projeté ?
Il y aura un mini-documentaire qui sera projeté. On a aussi, là, on a été interviewé par exemple par le BEC, qui est le nouveau journal numérique de la Vallée. Je pense que ce sera l'occasion peut-être de diffuser la petite interview qui a été faite. Et après, faire un rapide point sur tous les projets. Et puis, c'est l'occasion aussi de passer un moment tous ensemble. Et voilà, avec les nouvelles personnes qui voudraient s'investir et pour pouvoir vraiment échanger. Et on va refaire une élection de gens de OCA pour pouvoir faire entrer de nouvelles personnes. On a déjà des nouvelles personnes qui nous ont proposé d'intégrer l'équipe. Mais s'il y en a d'autres qui entendent cette émission et qui veulent venir, on sera ravis de les accueillir.
Alors, c'est où et à quelle heure ?
C'est à la Matériothèque et à 18h.
Mercredi
23 octobre.
Voilà, ce sera extraordinaire.
Ce sera extraordinaire.
Peut-être que, je ne sais pas si on a donné les horaires d'ouverture, les jours et les horaires d'ouverture de la Matériothèque. C'est toujours assez compliqué de les retenir, mais on peut quand même les rappeler une fois.
Alors, il y a un endroit où on peut les trouver déjà.
Alors, on peut les trouver sur le site internet, mais qui est pas super à jour. Il y a sur la page Facebook. Sur internet, normalement, on a essayé d'uniformiser les horaires, qui à une période étaient un peu hétéroclites. Et autrement, c'est vrai qu'on a des petites cartes. Dès que les gens passent, on prend le réflexe de leur donner. Et donc, les horaires, c'est le lundi et le mercredi de 14h à 19h, le mardi matin de 10h à 13h, et le samedi, c'est 10h midi, 14h, 16h. Et en plus de ça, on a donc le créneau, là, le magasin, la Matériothèque n'est pas ouvert. On est présent en déchetterie le jeudi après-midi.
On peut nous donner des choses.
On peut venir déposer des choses. Il y a des bénévoles qui sont là avec le camion et pour regarder aussi.
Et pour les collectes, on fait comment ?
Pour les collectes, il faut nous appeler ou nous envoyer un mail. Donc le numéro de téléphone de la Matériothèque, c'est 06 40 08 76 76. Autrement, envoyer un mail à l'association, c'est bisusus, B-I-S-U-S-U-S, 26@gmail.com. Et donc là, voilà, on peut prendre contact avec nous et là, on peut discuter, voir comment faire une collecte, etc.
On parlait de cet AG qui est donc une occasion extraordinaire hein, de recruter encore des personnes. Mais comment vous travaillez cette sensibilisation justement du public, par exemple, qui vient déjà vous acheter ? C'est pas forcément des gens qui eux-mêmes ont déposé des matériaux. Enfin, comment vous êtes connus ? Est-ce qu'on ne devrait pas être adhérent justement assez systématiquement pour pouvoir acheter à prix libre ? Enfin, toutes ces questions-là...
On ne doit pas être adhérent, il n'y a pas d'obligation. Après, c'est sûr que si les gens deviennent adhérents, ça nous aide, c'est évident. Mais on n'oblige personne.
Et puis, ouais, je dirais aussi que dans le fait d'être adhérent, c'est financièrement, donc l'adhésion, c'est 5 euros. Donc ça nous aide financièrement, mais c'est aussi un moyen de reconnaissance qui fait que nous, si on peut dire que d'avoir 200 ou 400 adhérents, ce n'est pas pareil au niveau du poids derrière, quand on dit, par exemple, avec les politiques ou avec d'autres porteurs de projets, de dire, nous, on a 400 adhérents, on a 200 adhérents.
Mais vous avez sans doute 400 personnes qui sont venues acheter quelque chose.
Alors, en moyenne...
Même plus, alors.
En moyenne, par mois, on est quasiment dépassé les 400 personnes... 400 passages
par mois.
Pas personne. 400 passages par mois dans la Matériothèque.
Ouais. Non, mais parce que je pense au café associatif, il y en a quelques-uns dans le coin qui ont 1000, 1200 adhérents. Mmh. Voilà. Et vous les auriez largement aussi, à ce compte-là.
Je ne sais pas si on aurait 1200 adhérents, mais je pense qu'on aurait, si on comptait tous les gens qui passent dans la Matériothèque, on aurait beaucoup d'adhérents. Après, c'est vrai qu'il y avait une discussion à la dernière AG, justement, sur le fait de forcer l'adhésion ou pas. Les autres Matériothèques, par exemple... ont une adhésion obligatoire pour pouvoir acheter à prix libre, etc. Nous, ce n'est pas le cas. C'est un vrai choix aussi de pouvoir ouvrir à tout le monde. Ce n'est pas une obligation d'adhérer.
Pourquoi, d'ailleurs ? Parce que c'est quelque chose, stratégiquement, vous vous êtes dit, ce ne sera pas...
Il y a une envie d'ouvrir au maximum aussi, de ne pas forcer les gens à dire vous soutenez le projet. Parce que pour moi, il y a le côté... n'importe qui peut venir, même sans être adhérent, sans adhérer complètement au projet. On peut aussi bénéficier de nous, le but, c'est de faire revivre les matériaux pour tout le monde. En fait, c'est pas juste pour nos adhérents et ceux qui sont d'accord avec nous, etc. Je pense qu'il y a un côté comme ça. Et après, il y a aussi, on est en train de réfléchir à devenir d'intérêt général, d'utilité publique. Et ça peut amener aussi des contraintes. On ne doit pas forcer les gens à être adhérents. si on veut être d'utilité publique, par exemple. Donc ça, c'est des démarches sur lesquelles on réfléchit aussi.
Du coup, sur la sensibilisation, comment vous faites encore pour vous faire connaître grâce à
Alors, aujourd'hui, il y a la communication, RDIWA, par exemple, etc. Moi, c'est vrai que je suis arrivé il y a 6 mois. Il y a eu du travail qui avait été fait sur le marché avant. Après, il y a la communication locale.
Tout ce qui est professionnel, tout ça, c'est du temps que vous avez passé, des coups de téléphone, vous avez fait une liste, vous vous êtes fait connaître auprès de tous ces...
Par rapport à nos partenaires de collecte, par exemple
Oui,
oui, bah oui.
Il y a à la fois les partenaires de collecte, mais aussi le public. Enfin, il faut que les gens sachent qu'il y a ça et puis qu'en même temps, le magasin soit plein.
Ouais, comme disait Brice, il y a eu des stands sur le marché où on essayait de dire qui on était. Il y avait le forum des associations, les journées de l'écologie où on dit un peu qu'on existait pour se présenter. Après, je pense qu'il y a beaucoup de bouche à oreille en fait. Et qu'ici, on est quand même dans un réseau où ça marche beaucoup comme ça. C'est que les gens viennent et se disent « Ah, mais c'est génial !» Et puis, ils ramènent leurs amis. Et puis, les amis de nos amis sont nos amis. Et...
Oui, et puis après, au niveau des entreprises, il y a eu un démarchage qui a été fait auprès de certains professionnels. Voilà. Donc, il y a une convention qui existe entre la matériothèque et certains professionnels.
C'est ça. Et après, là où la communauté de communes aussi a grandement aidé, c'est qu'elle a ouvert la déchetterie un après-midi par semaine. C'est aussi un super moyen de se faire connaître, c'est de regarder directement avec les gens dans leur véhicule et qu'ils se rendent compte, en fait, des gens qui ne viendront pas à la matériothèque, mais ils se rendent compte que, en fait, dans ce qu'ils allaient jeter, il peut y avoir la moitié, en fait, qui peut être récupérable. Ça, c'est un super moyen de sensibilisation.
Et cette question des bennes donc à venir à Luc, à Minglon, là, c'est pareil. Alors, du coup, c'est le professionnel qui sera dans la déchetterie qui va faire ce tri à votre place.
Alors, à Luc et Minglon, ça va être géré par le gardien de la communauté de communes qui va être accompagné par nous. C'est-à-dire que là, sur les premières ouvertures, il va y avoir des bénévoles de Air Trésor, de chez nous. Il y aura aussi des gens de la communauté de communes pour le lancement de l'activité. En plus de ça, nous, on prépare des documents qui vont lui permettre de savoir quoi prendre ou pas. Et le but aussi, c'est que quand on ira faire des collectes, on fera les collectes sur les heures d'ouverture pour que le gardien puisse voir avec nous ce qu'on rejette, pour qu'il puisse identifier quoi mettre dedans ou pas. Donc là, il y a aussi un travail d'accompagnement et de formation du gardien de la déchetterie pour faire ce travail, parce que c'est un vrai travail. On appelle ça de valoriste et je trouve que c'est très positif. Justement, on a souvent tendance à voir les gens comme juste des gardiens de déchets, mais en fait, là, il y a un travail de valoriste. Justement, on remet en valeur des choses. Donc,
Et d'ailleurs, on ne dit plus déchetterie, on dit aire de tri et de réemploi.
Voilà. C'est ça.
Mais
c'est important.
C'est important. Ça veut
on sort de la notion de déchets, on voit comment on peut redonner de vie à ces choses-là. Donc, important.
Eh bien, rendez-vous le 23 octobre pour cette AG extraordinaire à la matériothèque.
Moi, j'ai juste envie de dire un tout petit truc.
J'ai vu même un gros.
Il y a un slogan qui court là, qui s'appelle en anglais « Waste is beautiful ». Et donc, si je le traduis, ça fait « Les déchets, c'est magnifique ». Voilà.
Moi, ça me semble très bien pour conclure.
C'est une belle phrase.
J'ai pas d'autres choses à ajouter. Venez nous voir si vous n'êtes jamais venus.
C'est ça. Voilà, c'est la meilleure façon de nous découvrir, c'est ça, c'est de venir à Matériothèque et de venir partager avec nous ce beau projet.
Merci à tous les trois, merci également à Fanny qui a dû nous quitter en cours d'interview, vous vous êtes rendu compte, elle dit plus rien. Voilà. Et à la prochaine.
Merci à toi.
À bientôt.
Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.